En direct du Palais des congrès de Montréal où se déroule la 75e édition du Salon de l'auto. Et cette fois, nous poursuivons l'émission en compagnie de Philippe Quentin. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
C'est bien le fun d'être face à face pour le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis avec plein de gens ici au Salon de l'auto qui bravent des conditions routières qui sont de moins en moins bonnes plus la soirée avance. Plusieurs sujets dont on va parler ensemble. Mais j'ai envie de te lancer la question qu'on a lancée sur le compte Twitter du 98.5 FM et le 98.5 FM Sport, qui est la suivante, Philippe. Qui, selon vous, devrait occuper le poste de DG des Canadiens de Montréal après la saison en cours 2018-19, évidemment, là, donc après la saison puis pour la suite des choses? Et choix de réponse, Marc Bergevin, Julien Brisebois, Patrick Roy et autres candidats, pour tous ceux qui penseraient à quelqu'un d'autre. Qui, selon toi, devrait donc être le DG?
Ben, c'est toujours la grosse question, puis ça va être Jeff Molson, bien sûr, ultimement, qui va répondre à cette question-là. Tu sais, tu connais ma théorie là-dessus, on en a parlé à quelques reprises. J'ai l'impression que Jeff Molson est très attaché à Marc Bergevin. Il l'a toujours défendu avec énormément de vigueur, et on sent là, que les deux hommes s'entendent bien. Mais tu sais, tout à coup, il va falloir que Jeff Molson s'interroge sur l'aspect business des choses. À l'heure actuelle, c'est la marque du Canadien qui souffre. Les d'écoute sont à la baisse à la télé. Il n'y a plus le même buzz autour de l'équipe. Et ça, tout à coup, pour un propriétaire d'équipe, malgré son affection pour le directeur général, il faut qu'il se dise « Est-ce que je vais entreprendre la saison prochaine selon les mêmes paramètres, avec le même plan qui, à mon avis, demeure un peu vaporeux, là, le fameux plan, on ne sait pas trop c'est quoi. » Alors, j'ai très, très hâte de voir qu'est-ce que Jeff Molson va décider. Moi, je pense toujours que ça va être Bergevin qui va rester. Justement parce que je pense que Jeff Molson est très attaché à lui. Mais c'est clair que quand tu regardes la liste des candidats, Julien Brisebois serait un candidat formidable pour le Canadien. Absolument aucun doute là-dessus. Et je pense que même le nom de Julien Brisebois serait un candidat pour toutes les équipes qui cherchent un directeur général et qui veulent relancer leur organisation.
Je ne veux pas passer tout le bloc sur ça, mais je me permets une sous-question quand même pour aller plus loin dans ton idée à toi sur la situation. Quand j'ai demandé à Ron, qui m'a répondu, moi, je souhaite que Marc Bergevin revienne et poursuive, il a avoué lui-même dire, finalement, je te donne pas vraiment d'arguments, mais c'est une affaire de cœur. Tu sais, c'est personnel, c'est quelque chose, c'est difficile à dire. Toi, es-tu capable de m'identifier une ou plusieurs raisons pour lesquelles tu souhaiterais que lui poursuivre son mandat?
Ben, que je souhaite. C'est pas une question ce que je souhaite, moi ou non, à l'heure actuelle, mais je pense que j'essaie d'analyser la situation puis d'essayer de voir comment Jeff Molson, lui, voit ça. Et je reviens toujours à une chose qui est tellement importante pour Jeff Molson, il faut pas l'oublier, c'est un mot, c'est le mot stabilité. Il l'a dit quand il a embauché Marc Bergevin en 2012, il l'a répété encore une fois cet automne, l'automne dernier, quand j'ai eu l'occasion de discuter de cette question-là avec lui. Il en fait presque un dogme, Jeff Molson, de cette question-là, de la stabilité. Alors, pour toucher à son organisation, au poste le plus important de son secteur hockey, je pense qu'il va falloir vraiment qu'il se produise deux scénarios. C'est-à-dire que soit que lui-même, tout à coup, vient convaincu que Bergevin n'est pas capable de relancer la machine, je doute que lui en vienne à cette conclusion-là, ou soit qu'il subisse des pressions en ce sens-là. De qui les pressions peuvent venir? Essentiellement de deux ordres. Ben, le conseil d'administration, bien sûr, les gens qui sont là, puis qui se rencontrent, puis qui disent, écoute, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'an prochain? Et l'autre, il ne faut pas oublier, c'est le public aussi. Mm-hmm. Et le public, comment il s'exprime? Ben, il s'exprime par la vente des billets, puis par la vente des loges corporatives, puis par les codes d'écoute aussi dont je parlais. Alors ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants dans l'équation. Alors si tu regardes ça, puis tu pourquoi il resterait Marc Bergevin? Ben, écoute, Jeff Molson a dit à Ron, juste avant Noël, qu'il avait un plan. Alors, c'est quoi le plan? Moi, je le vois pas, le plan. Je sais que toi, tu penses que tu as des doutes aussi sur le plan. Tu sais, l'autre jour, tu disais, le plan, c'est peut-être John Tavares comme joueur autonome. Si c'est ça, Mario, ben, c'est
fragile,
triste.
C'est pas un
plan.
C'est
pas un plan. C'est lancer des dés, ça.
C'est à défaut d'information, de toute façon, tu le sais, c'est qu'on est amené à y aller d'hypothèses. Et tu dis, qu'est-ce qui permet au DG de garder le lien de confiance avec son propriétaire? Qu'est-ce qu'il promet que nous autres, on n'est pas au courant là pour que dire, non, il y a un plan et on le respecte alors que l'équipe est en glissade continue?
J'ai l'impression que ça doit ressembler beaucoup leurs échanges au
point
de
presse.
Ben non, mais non. Au point de presse de Marc Bergevin à la mi-saison. J'écoutais les réponses qu'il donnait aux questions des journalistes et je suis convaincu que dans les échanges qu'il a avec Jeff Molson, ça doit ressembler à ça. Ah, ben regarde, oui, en 2015-2016... Carey Price a été blessé. Je sais que les gens disent que c'est une excuse, mais c'est pas une excuse, c'est la réalité. Regarde Tampa Bay quand ils ont pas eu Stamkos, ils ont pas fait les séries éliminatoires. Tu sais, il y a une part de vérité là-dedans. Tu peux pas le nier.
Ben oui, ben
sauf
oui,
que tu peux pas tout le temps vivre là-dessus. Tu peux pas tout le temps trouver des raisons.
Et Price, t'as pas été à la hauteur.
Ah, voilà.
Il a coûté combien de points? Qui l'avait
là.
Prédit? Si Price est meilleur dans six matchs, peut-être que le Canadien est huitième en ce moment.
Ah, exactement.
Fait que c'est sûr que c'est pas évident à trancher noir ou blanc.
Bon, l'autre facteur.
Ah oui.
Ben, je veux. Puis ça, je te mène un peu sur mon prochain sujet. Parce qu'il y a un lien à faire.
OK.
Joe Sakic.
Oui, ben justement, gars, je sais pas si ça ressemblait à ça. Mais vas-y, je t'écoute. Joe Sakic au Colorado, prochain adversaire du Canadien, 9 victoires de suite.
Bon, regarde Sakic. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que Joe Sakic était un peu dépassé par les événements au Colorado. Le feuilleton Matt Duchene a duré tellement longtemps. Cette équipe-là piquait du nez. On ne savait pas trop où s'en allait l'organisation. Tu sais, tout à coup, tu disais, on posait la question, est-ce qu'il y a un capitaine à bord pour l'Avalanche du Colorado? Puis il a pris du temps, puis Joe Sakic, souviens-toi la date limite des transactions l'an dernier. Ah, je suis pas pressé. Ah, là, tout le monde disait, ça va être dans le temps du repêchage. Non, c'est pas arrivé là non plus, Duchene. Il n'a pas été changé à ce moment-là. Pas été changé le 1er juillet, là, dans la grosse fenêtre où ça bouge dans la Ligue nationale. Il n'a pas bougé. Mais finalement, la transaction a eu lieu. Et quand tu regardes la transaction, c'est un succès extraordinaire pour l'Avalanche du Colorado. Ils vont chercher trois choix en juin prochain, de deux choix d'Ottawa, choix de première ronde, choix de troisième ronde. Et Ottawa, là, avec la saison qu'ils ont, ça va être d'excellents choix que Colorado va obtenir.
En plus, oui.
Plus un choix de Nashville en deuxième ronde,
oui.
Plus Samuel Girard, plus deux autres espoirs, Vladislav Kamenev puis Bowers, qui était un choix de première ronde par Ottawa l'an dernier. Alors, il est arrivé, Joe Sakic, avec un échange spectaculaire qui a transformé cette concession-là au point où Nathan MacKinnon, je lisais les articles de nos collègues à Toronto aujourd'hui, parce que l'Avalanche joue ce soir contre les Maple Leafs à Toronto. MacKinnon a interviewé ce matin, notamment par Sportsnet, dit « Le départ de Matt Duchene, ça a changé le vestiaire. » J'ai rien contre Matt Duchene et tout, mais puis on le sait, là, ça
mais
a transformé cette
équipe-là. Mais l'élément le plus intéressant dans tout ça, là, c'est que, dans le fond, c'est pas une addition qui transforme l'équipe.
C'est un départ dans ce cas-là.
Et tout le monde cherche toujours le joueur qui manque.
Ouais.
Tu sais, dans toutes les équipes, tout le monde cherche le joueur qui manque. T'sais, tu regardes chez le voisin, eux autres, ils l'ont le gros centre, ils l'ont le ci, le ça. Vegas, ils l'ont pas, le gros centre, pis ci, pis ça. Puis, tu sais, tu regardes ça, puis là, eux autres, ils ont pas d'addition immédiate dans leur alignement qui vient gonfler cette équipe-là.
Sauf qu'ils ont donné l'espace à MacKinnon.
Ils ont Samuel Girard, puis tu sais quoi, ils ont permis une fleur de pousser.
Ouais, c'est ça.
Ils ont permis une fleur de pousser. Et donc, je dis pas que le Canadien est quelqu'un qui empêche les fleurs de pousser. On sait même pas si les fleurs vont vraiment grandir beaucoup.
Ouais.
Mais c'est, avoue que, donc, ça nous ramène à quoi?
Bon.
J'en parlais avec Ron. Faire une équipe, d'avoir une équipe où tout le monde joue pour la même cause, le sentiment de solidarité, l'ambiance de travail. Et on oublie toujours de dire à quel point le sport, c'est de la gestion de ressources humaines.
Ah oui.
Tu sais, on parle de la masse salariale, on parle d'un paquet d'affaires, de chiffres, de moins deux, puis des statistiques avancées. C'est de la gestion de ressources humaines. Et là-dessus, je me pose des questions sur la manière dont les ressources humaines sportives à haute intensité sont gérées à Montréal.
Je pense qu'on peut se poser des questions sur tous les aspects de la gestion du Canadien. Là, franchement, oui. On peut certainement le faire, aucun doute là-dessus. Mais moi, je vais faire un lien là, entre Sakic et Bergevin. C'est-à-dire qu'au moment où plusieurs, dont moi, puis beaucoup d'analystes, croyaient que Sakic était dépassé, puis que Sakic avait raté son rendez-vous, puis que Sakic avait raté sa chance, puis que Sakic devrait peut-être être remplacé, bang, il arrive avec une transaction sensationnelle qui transforme son équipe. Est-ce que Bergevin est capable de faire ça le 26 février? Pour moi, c'est une de ses dernières chances.
Mais tu me permettras d'argumenter un peu là-dessus, parce qu'on qualifie la transaction de sensationnelle, mais on ne sait pas ce qu'aucun des joueurs va donner. Puis une petite précision sur le choix de première ronde, ça va être en 2019 si Ottawa finit parmi les 10 derniers ou repêche parmi les 10 premiers.
Bonne précision.
Une nuance. Mais il reste que, tu sais, prends une transaction comme ça à Montréal. Il va chercher un jeune prometteur, des choix, tout ça. Dans l'immédiat, on pourrait pas dire que c'est une transaction exceptionnelle, t'es d'accord?
Ouais.
Tant que t'as pas des résultats, là peut-être que la séquence victorieuse du Colorado puis de l'équipe qui va mieux permet de comme Marc Bergevin à l'an 1 de son règne avec un héritage qui était pas si méchant que ça finalement avait l'air d'un excellent DG sans avoir fait de grandes décisions. T'es-tu d'accord?
Ouais, tout à fait.
C'est comme
tout
quoi, tu sais des fois c'est entre la photo de l'immédiat. Et ce que ça va être dans 2-3 ans, tu sais, c'est embêtant.
Mais moi, je veux pas parler de tu sais, je soulève pas cette comparaison-là uniquement pour dire qu'il faudrait qu'il fasse un échange semblable. C'est pas ça. L'idée pour laquelle je le mentionne, c'est qu'au moment où on pensait que Sakic était dépassé, il a rebondi. Et je pose la question, j'en suis pas convaincu, mais est-ce que Bergevin est capable de faire la même chose? S'il n'est pas capable, moi, à mon avis, c'est un peu sa dernière chance. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse un coup d'éclat. S'il ne réussit pas un coup d'éclat qui va faire en sorte que les gens vont dire « Oh, wow, le DG du Canadien est encore capable de faire des choses intéressantes », là, s'il est prêt à faire ça, je pense que ça va être très difficile pour lui de rester.
Et dans toute la réflexion sur Marc Bergevin puis Joe Sakic ou un David Poile, tu sais, une autre question qui vient me rattraper dans ma réflexion avant de... C'est pas facile de trancher le noir ou blanc puis tout ça. Mais dis, tu sais, David Poile aurait jamais été DG du Canadien tout ce temps-là à Montréal, les années qu'il a faites à Nashville. Ça serait fait clairer, ça fait bien longtemps. On pourrait pas dire de David Poile aujourd'hui, « Hey, c'est-tu un bon directeur général, ce gars-là? » Joe Sakic, aurait-tu survécu à ce que l'Avalanche vient de vivre à Montréal?
Ben, ça aurait été dur.
Tu sais, fait que... Encore, donc, encore
voilà,
là...
Voilà. David Poile, comme directeur général, tu sais, il a eu du succès, mais là, il connaît une très, très grosse période, très profitable avec des échanges. T'sais, il est allé chercher Johansson, il est allé chercher Subban, il est allé chercher Kyle Turris. Tu sais, il est vraiment... Mais lui aussi, tout à coup, va falloir qu'il gagne. Mais tu sais, ça fait combien d'années que David Poile dirige une équipe dans la Ligue nationale? Ça fait quoi, 30 ans? Là? Il est allé avec Washington à l'époque. Il n'a pas encore gagné une Coupe Stanley.
En effet.
Et faut pas l'oublier.
Mais, non, mais on évite à le vanter, ouais, mais ça a pris 20 ans
pour arriver là.
Bien des transactions qui n'ont pas abouti.
Ben,
Peter Forsberg dans le temps. Puis
c'est
Radulov,
vrai qu'à partir des clubs de l'expansion, tout ça, j'en suis. Mais tu sais, quand même, ça n'a pas été le succès instantané.
Pas tout
ça,
le temps.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Hey, un mot de soccer en terminant. Il nous reste un petit peu de temps. Oui, une couple. Parce que quand même, là, il y en a plusieurs qui s'impatientaient devant... pas l'inertie, parce que ça travaillait en coulisses, mais l'absence de résultats de mise sous contrat de joueurs de l'Impact, bien là, ça commence à débloquer.
Ben,
là.
Moi, je suis vraiment impressionné, puis c'est drôle, encore une fois, je vais faire un rapprochement avec le Canadien. C'est un peu le sujet du jour, évidemment, mais tu regardes comment l'Impact qu'on croyait, hey, il s'en va où là pour la saison 2018? Oui, il a embauché un nouvel entraîneur, mais il n'y a pas de joueurs. Mais ils disaient, ah, on a un plan. Eux, ils ont dit, on a un plan. Mais là, le plan, là, contrairement aux Canadiens, où on ne voit pas le résultat du plan, puis on ne devine pas le plan, là, on commence à comprendre le plan de l'Impact. Ils sont allés chercher quatre joueurs, un autre encore aujourd'hui, un jeune de 20 ans, Jason Vargas. Ils sont allés chercher Saphir Taider, Michael Petrasso, Zakaria Diallo. Ça change une équipe. On ne les connaît pas très bien, ces joueurs-là, il ne faut pas se le cacher, mais il n'en reste pas moins qu'il y a de l'espoir qui est au rendez-vous. Il y a une direction qui a bougé. Il y a une direction qui nous a dit, Mario, on a un plan. Soyez patient, hein? On est en train de le mettre en œuvre et ils l'ont fait. Et c'est ça qui arrive quand le Canadien nous dit « on a un plan ». Il est où le plan? On ne le sent pas. On l'a... Et là, des gens pourraient dire, ouais, mais c'est pas correct de dire ça, on est en pleine saison. Un instant, est-ce qu'on a senti le plan l'été dernier? J'ai pas senti, moi, le plan l'été dernier. Et depuis le début de la saison, je ne sens pas le plan, puis je vois pas trop ça va être quoi le plan.
Et c'est pour ça que j'ai spéculé dans la direction d'un reset qu'on a déjà entrepris, parce que je vois pas d'autres plans possibles. Si le plan, c'était de réussir. Puis Marc Bergevin, j'écoute des vieilles entrevues, il dit le plan, c'est de faire des séries tous les années.
Et avec Carey, tout est toujours possible. Et là, je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est pas vrai. Avec Carey, c'est pas vrai que tout est toujours possible. On l'a vu l'an dernier en séries éliminatoires, il a pas été mauvais. Puis cette année, ben il a eu des difficultés, mais là il est assez bon. Mais même à ça, c'est pas suffisant.
L'Impact donc est en train de peut-être réussir son plan. On va voir ce que ça donne sur le terrain,
évidemment.
Mais c'est l'entre-saison.
Ouais.
Et comme Marc Bergevin dit souvent, c'est dans l'entre-saison que tu fais ton club. Fait qu'il a raté. Moi, dire comme Ron tantôt a dit, il a doublé son année.
Il a redoublé son année. C'est clair.
Et puis, on verra la suite.
Mais
la suite du plan, ça ne peut pas être avant l'été prochain, en 20 secondes en conclusion.
Ouais, ben, ce qui est plate aussi, c'est qu'il ne semble pas vraiment le reconnaître qu'il a raté son année. Il nous répète qu'il aurait fait un peu les mêmes gestes et tout. Et ça, je trouve ça très inquiétant parce qu'il ne semble pas avoir une forte capacité d'auto-analyse et de retour sur ses actions passées. Et ça, pour un gestionnaire de haut niveau, à mon avis, c'est une erreur.
C'est toi qui écrivais samedi que Jeff Molson disait « Attendez à 60 matchs, puis tout un titre, le match de la rupture dans la presse plus, c'est un beau titre. C'est pas une belle situation, mais c'est un beau titre. » Philippe, merci beaucoup.
Salut Mario.
Bon magasinage. Je sens que les Quentins vont se promener dans quelque chose de différent. On verra. Merci Philippe et bonne visite du Salon de l'Auto.
Salut.
Faut pas l'annoncer à la famille trop vite. J'ai pas brûlé le punch, j'espère. Et on revient dans un instant avec Martin McGuire en direct du Palais des Congrès.